Laudetur Jesus Christus.
Ouverture des Jeux Olympiques ce vendredi à Tokyo, au Japon. Des Jeux ternis par la pandémie, les mesures sanitaires sont drastiques. Nous retrouverons notre correspondant dans l'archipel. La Russie accuse l'Ukraine de violation des droits de l'homme lors du soulèvement de Maïdan en 2014 et dans la guerre qui a suivi. Le Kremlin qui accuse aussi l'Ukraine d'être responsable du crash du vol MH17. Dans ce journal également, l'avancée inexorable des talibans en Afghanistan. Ils annoncent désormais contrôler 90% des postes frontières du pays. Le travail des humanitaires devient de plus en plus difficile en Centrafrique. MSF doit réduire ses équipes. Témoignage à suivre. Puis enfin, dans notre dossier, direction le Chili. L'Assemblée constituante s'est attelée à l'écriture de la nouvelle loi fondamentale, mais les écueils sont nombreux. Nous entendrons l'analyse du professeur Franck Godichaud.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Après le report et les incertitudes, les Jeux Olympiques s'ouvrent d'ici quelques heures à Tokyo, au Japon. Des Jeux inédits, les mesures sanitaires sont drastiques. Tokyo est en état d'urgence à cause de la pandémie. Sur place, on retrouve Philippe Mesmer.
Les quelques 53 000 athlètes, accompagnateurs et autres membres des sponsors et médias vont vivre plus de deux semaines dans une véritable bulle mise en place pour éviter la propagation du virus. Ce qui en fait des Jeux organisés dans un monde à part. Les compétitions vont se dérouler à huis clos, les médailles vont se glaner et certains pleurer de joie, d'autres de déception, dans des stades vides sans autre ambiance que celle des haut-parleurs qui vont diffuser des applaudissements. La capitale japonaise ne bruissera pas des mouvements de joie qui accompagnent d'ordinaire les exploits sportifs des athlètes olympiques. La ville est en état d'urgence en raison d'une forte hausse des contaminations. Les restaurants ferment à 20h et il fait très chaud. Commencer malgré les difficultés, les scandales et l'hostilité d'une population qui ne comprend pas pourquoi on organise un tel événement en pleine pandémie, les JO devraient aller à leur terme. Pour la plus grande satisfaction du Comité international olympique, le CIO qui ne voit que les gains à tirer des droits de retransmission. Le Japon, lui, retient son souffle et espère que ces Jeux ne seront pas l'occasion de l'apparition d'un variant olympique qui pourrait déclencher une nouvelle vague de contamination. À Tokyo, Philippe Mesmer pour Radio Vatican.
Pass sanitaire, badge vert ou encore Green Pass. Devant la reprise de la pandémie, ce document prouvant une vaccination contre la Covid ou un test négatif arrive dans de nombreux pays. Après la France, l'Italie impose le pass sanitaire à partir du 6 août pour manger à l'intérieur des restaurants ou encore se rendre au cinéma. Israël, l'un des premiers pays à l'avoir mis en place cet hiver avant de l'abandonner, annonce y revenir progressivement. Le badge vert sera obligatoire pour les événements rassemblant plus de 100 personnes. La Cour européenne des droits de l'homme sollicitée dans le conflit ukrainien par la Russie. Moscou veut en effet traduire en justice l'Ukraine, l'accusant d'être responsable du crash du vol MH17 et de la mort de civils dans la guerre en cours dans l'est du pays. Les précisions avec vous, Xavier Sartre.
Oui, les civils tués lors du soulèvement du Maïdan en 2014, ceux tués lors du conflit en cours dans l'est du pays, dans les territoires séparatistes, sans compter les civils russes tués par des bombardements dans le sud de la Russie. Voilà les principaux griefs dont Moscou accable le gouvernement ukrainien, accusé de menacer la vie des citoyens russes vivant près de la frontière et de forcer des milliers d'Ukrainiens à trouver refuge en Russie. Autre accusation, vous l'avez dit, le parquet russe accuse l'Ukraine d'être responsable de la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines en juillet 2014. Or, des enquêteurs internationaux avaient conclu que l'appareil avait été abattu par un missile acheminé depuis la Russie et tiré par les séparatistes pro-russes. Kiev se voit reprocher de ne pas avoir fermé son espace aérien. Sont également concernés par cette plainte de la Russie les mesures discriminatoires envers les russophones ukrainiens ou les coupures d'eau en Crimée. Cette plainte est moquée par le gouvernement ukrainien qui y voit exposer tous les mythes de la propagande russe. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est qu'une plainte de plus liée à ce conflit. L'Ukraine a déjà en effet déposé plusieurs requêtes contre la Russie, notamment pour l'annexion de la Crimée, et les Pays-Bas en 2020. On traduit Moscou cette fois devant la Cour pour son rôle dans la destruction du vol MH17.
Merci Xavier Sartre. L'onde de choc de l'affaire Pegasus, pas une région du globe n'est épargnée. Hier, c'était au tour de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis de démentir les accusations d'espionnage. Le Maroc, accusé notamment d'avoir voulu espionner le président français, annonce porter plainte pour diffamation. La France et l'Allemagne, de leur côté, appellent à renforcer la cybersécurité et à plus de restrictions sur la vente des logiciels espions. La pluie continue de tomber dans le centre de la Chine. De nombreuses villes sont cernées par les eaux. Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. Et plus à l'est, la Chine attend désormais avec anxiété l'arrivée du typhon Infa, prévu pour samedi. En Afghanistan, après quelques jours d'accalmie à l'occasion de la fête de l'Aïd, les combats ont repris hier et les talibans se sentent en position de force. Hier, leur porte-parole a affirmé dans la presse russe que son organisation contrôlait 90% des postes frontières du pays. Depuis un mois, les combattants islamistes ont pris le contrôle d'au moins en effet 4 postes frontières. On retrouve notre correspondant en Asie du Sud, Emmanuel Derville.
Depuis un mois, les talibans se sont emparés de la plupart des postes frontières avec les pays d'Asie centrale, l'Iran et le Pakistan. De quoi leur permettre de faire main basse sur des dizaines de millions d'euros de droits de douane chaque mois. L'enjeu du conflit porte maintenant sur les capitales provinciales, toujours sous contrôle gouvernemental. Le chef d'état-major des armées américaines a indiqué mercredi que la moitié de ces agglomérations étaient plus ou moins encerclées. Ces derniers jours, les talibans ont conquis plusieurs quartiers de la banlieue de Kandahar, dans le sud du pays. Si les grandes villes tombent, l'effondrement du régime afghan pourrait bien être imminent. Signe de l'importance de l'enjeu, l'armée de l'air américaine a bombardé des positions talibanes, d'après le porte-parole du Pentagone. Les médias américains évoquent une demi-douzaine de frappes en un mois, la plupart conduites par des drones contre du matériel pris par les talibans aux forces afghanes. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
337 personnes sont mortes dans la récente vague de violence en Afrique du Sud. Le bilan a été revu à la hausse. Des corps sont retrouvés dans des décombres, dans des hangars ou dans des sites industriels brûlés, notamment près de la ville de Durban. Les manifestations et violences ont débuté après l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma le 8 juillet. Le principal opposant politique en Tanzanie, arrêté et accusé de terrorisme, Freeman Mbowe, à la tête du parti Chadema, avait appelé à des manifestations pour demander des réformes au pouvoir. Lors de son investiture au printemps, la présidente de Tanzanie, Samia Hassan, qui a remplacé John Magufuli après son décès, avait pourtant promis de respecter la démocratie et les libertés fondamentales. De nombreuses ONG s'inquiètent d'une perpétuation des méthodes du président Bulldozer, comme il était surnommé. La situation sécuritaire est toujours aussi précaire en République centrafricaine. Les attaques des groupes armés sont quotidiennes, comme non loin de Bosangoa hier, où un groupe armé a tué 13 jeunes villageois. Cette insécurité chronique a également un impact sur les activités humanitaires. Ainsi, l'ONG Médecins Sans Frontières a dû réduire son aide dans certaines provinces du pays, comme nous l'explique Fidel Engombo, chef de mission support de MSF.
MSF n'a pas suspendu toutes ses activités, mais c'est des activités sur les axes, c'est-à-dire des activités périphériques en termes de référence des patients, en termes de cliniques mobiles ou des activités de supervision en dehors des villes qui sont suspendues. C'est par rapport à l'insécurité. Vous savez que depuis ces derniers temps, avec la recrudescence des violences, soit en ville ou dans les localités périphériques des villes, MSF a constaté beaucoup de dégâts en ce sens que beaucoup de nos formations sanitaires ont été attaquées, nos patients ont subi des attaques et même le personnel de santé. Ce qui nous préoccupe, c'est pas de dire l'identité des assaillants, mais ce qui est important pour nous, c'est que nos équipes ont été agressées et nos patients aussi. Et donc, aujourd'hui, ces incidents sécuritaires ont eu un impact néfaste sur l'accès aux soins. La population a peur même de venir dans nos centres de santé et même le personnel de santé ne peut pas aller vers les populations vulnérables.
Des propos recueillis par notre correspondant à Bangui, Vianney Ingasso. La journée s'annonce sous tension. Haïti enterre aujourd'hui son ancien président, 15 jours après son assassinat. Jovenel Moïse, 53 ans, a été abattu par un commando armé. Il sera inhumé à Cap-Haïtien, métropole de sa région natale, où des heurts ont éclaté hier, notamment à cause de la présence sur place du directeur de la police nationale. Après de nouvelles émeutes dans une prison en Équateur qui ont fait 22 morts hier, le président décrète l'état d'urgence dans les prisons pour restructurer totalement le système carcéral, annonce Guillermo Lasso. L'armée sera désormais chargée de contrôler l'accès aux prisons à l'extérieur, tandis que la police se chargera de l'intérieur des prisons. « Voilà près de 3 semaines que l'Assemblée constituante chilienne a ouvert ses travaux. Le premier acte fut l'élection de sa présidente, Elisa Loncón, une universitaire mapuche originaire d'un des peuples premiers du Chili. Cette Assemblée, élue après la crise sociale et politique d'octobre 2019, doit rédiger une nouvelle loi fondamentale qui remplacera le texte hérité de la dictature de Pinochet. L'ambition est grande et les espoirs de la population sont au diapason, mais les embûches sur la route d'une nouvelle constitution ne manquent pas et les 155 constituants ont plusieurs mois avant de fournir une version qui sera soumise à référendum en 2022. Franck Godichaud, professeur en histoire et en études latino-américaines à l'université de Toulouse Jean Jaurès, revient avec nous ce matin sur les objectifs de cette assemblée constituante et les problèmes que ses membres peuvent rencontrer.
Vu le contexte chilien, vu l'énorme rejet de la constitution de 1980, celle de la dictature de Pinochet, l'ambition de ce processus constituant va bien au-delà des simples rapports entre les pouvoirs, où il s'agit d'aller au-delà d'une simple réflexion institutionnelle finalement. Il y a des attentes très fortes, et peut-être qu'elles seront déçues d'ailleurs, sur les droits sociaux, sur le modèle économique, sur la fin du tout marché, de la privatisation, de la marchandisation. Il y a des attentes très fortes en termes de participation réelle et voire directe de la société civile. Donc une constitution qui a de très fortes ambitions mais qui est sous pression et qui est aussi traversée de contradictions politiques très importantes, puisque c'est une convention constitutionnelle très hétérogène socialement et politiquement.
Lors de l'ouverture des travaux, il y a eu des tensions, des heurts en dehors des murs de la constituante. Est-ce qu'il faut s'attendre à des travaux agités ou bien est-ce que le travail des constituants sera assez serein selon vous ?
Non, on voit bien que dès les premiers jours, les tensions sont là, elles sont sociales et politiques. Et c'est une évidence, puisqu'il faut rappeler que cette ouverture constituante, elle a été d'une certaine manière arrachée par une mobilisation populaire très très forte. Jusque-là, les élites politiques ne voulaient pas en entendre parler. Et donc les manifestants, les acteurs mobilisés, et une partie des constituants qui se réclament de ces acteurs mobilisés, appelle à ce que se maintiennent des mobilisations, des marches, des manifestations, surtout qu'il y a un dialogue permanent entre la société, disons, civile organisée et la constituante. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore régulé tout ça. Et il y a des tensions, ce qu'une partie de la gauche appelle les prisonniers politiques de la révolte d'octobre. La première thématique qui va être traitée par cette assemblée constituante, c'est celle-ci. Et toute une partie de la droite, du centre-gauche, sont plutôt contre, puisqu'ils pensent que l'Assemblée constituante n'a pas à s'immiscer dans le jeu judiciaire et à se prononcer donc sur ces emprisonnements de manifestants et représentants des mouvements sociaux.
Est-ce que dans les semaines, dans les mois à venir, il n'y a pas justement le risque d'une confusion entre la constituante et le Parlement issu des précédentes élections ?
La constituante peut commencer à prendre une place tellement importante qu'elle vient, entre guillemets, interférer dans les autres pouvoirs, surtout dans un contexte chilien où le Parlement et l'exécutif sont au plus bas en termes de légitimité politique. Donc là, il va y avoir un jeu difficile dans un contexte où il y a une forte hostilité de la part de l'exécutif envers ce processus constituant. On le voit d'ailleurs très bien ces jours-ci. Il n'y a même pas les conditions matérielles et sanitaires pour l'instant qui doivent être fournies par l'exécutif pour commencer à se réunir et à travailler pour les élus de la constituante.
Il n'y a pas un risque que les partis politiques, même discrédités au cours de ces derniers mois, reprennent la main sur l'ensemble du processus constitutionnel ?
Tout à fait, c'est même très très probable. On le voit d'ailleurs, ce sont des machines avec une grande expérience, qui ont une capacité d'organisation et donc on voit qu'ils sont en train de se positionner pour essayer d'influer au maximum, alors que les nouveaux arrivés, les indépendants, eux, n'ont pas ce niveau de coordination, d'organisation. On voit par exemple que la liste du peuple, qui était issue des mobilisations, qui a le plus de représentants par liste au sein de l'Assemblée, n'a pas réussi à ce qu'il y ait un de ses représentants nommé à la direction de coordination de l'Assemblée. Alors que les partis, eux, ont réussi à placer les leurs dans cette coordination.
Voilà, interrogé par Xavier Sartre, le professeur Franck Godichaud était ce matin l'invité de Radio Vatican. Retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde tout à l'heure à 13h. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet vaticannews.va. Très bonne journée.